histoire et conte.
Pauvre pêcheur. L'excitation avait réveillé Antoine bien avant l'aube. Aujourd'hui, on célébrait sa première communion. Enfin, il pourrait goûter à cette hostie que ses sœurs dégustaient tous les dimanches depuis plusieurs années. Tu n'y as pas droit, tu es trop petit. Elle prétendait que cela avait la consistance du pain azyme, mais il ne savait pas ce qu'était le pain azyme. Alors, lorsque sa mère pénétra dans sa chambre, il ferma les yeux pour lui faire croire qu'il dormait encore. Elle s'approcha doucement et lui murmura à l'oreille un chapelet de baisers. Il adorait ça. Enfin, il ouvrit les yeux, embrassa sa mère et s'assit dans son lit. Il allait pouvoir mettre son nouveau short du dimanche, un short en tergale gris acheté pour l'occasion. Comme d'habitude, l'office fut très long. Mais cette fois, ils avaient eu droit au premier rang. Antoine suivait la messe comme dédoublé, car une question le torturait. Allait-il faire fondre l'hostie sur la langue comme on le lui avait demandé, sans lui faire toucher les dents? Car le prêtre avait affirmé que croquer l'hostie était un péché mortel. Elle constituait un morceau du corps du Christ et la mâcher revenait à mordre le Sauveur. C'était très grave. Ils avancèrent un par un vers le cœur, par taille croissante, les mains jointes comme des angelots. Ils avaient dû répéter cette scène maintes fois. Un à un, ils s'agenouillèrent sur la marche froide, incarnant des symboles de la pureté et de l'innocence. Ne s'étaient-ils pas tous confessés la veille au soir? L'harmonium grinça un peu sous les doigts de Madame Bouchot et l'assistance entonna « Tu es mon berger, ô Seigneur » avec une conviction variable. Antoine ouvrit très grand sa bouche en essayant de rentrer la langue. Le corps du Christ. Amen. L'officiant avait déposé la parcelle divine un peu trop à droite et Antoine dut faire jouer sa langue avec habileté pour recentrer l'hostie. Il ne serait pas damné. Subrepticement, il se retourna et observa les adultes de la travée sur sa droite. Là, sur la deuxième chaise, un homme aux cheveux grisonnants mâchonnait l'hostie. Un criminel. Antoine le dévisagea, fasciné. Cet homme irait brûler en enfer, c'était certain. Tss, tss. Madame Turin l'avait repéré et allait attirer l'attention du prêtre sur lui. Elle se leva et lui pinça douloureusement l'épaule gauche. Antoine rougit et reprit sa pose. Puis il vit défiler ses sœurs et surtout Agnès qui lui jeta un coup d'œil diabolique. « Tu t'es fait gronder !» lui chuchota-t-elle en revenant toute réjouie. Le repas s'éternisa. Il y avait là ses oncles, ses tantes, ses grands-parents et des cousins plus ou moins éloignés. Ses parents avaient invité le curé à déjeuner. La catastrophe. Ils parlèrent de l'office en français, du credo en latin, mais oublièrent d'aborder la mauvaise conduite d'Antoine. On offrit à ce dernier plusieurs livres de messe, des chapelets, une croix en or à mettre autour de son cou et une belle montre. Agnès le chatouillait de temps en temps pour lui faire abandonner son rôle de petit saint. Mais il demeurait impassible et eut droit au communiant en sucre planté au sommet de la pièce montée. Sa sœur se pencha vers lui tandis que le dessert était taillé en pièces. « On va à la mare ?» C'était irrésistible. Elle voulait pêcher des têtards, bien sûr, car elle regorgeait de bonnes idées. Ils marchèrent tranquillement jusqu'à l'étang où ils avaient construit un radeau et, s'allongeant sur les planches de celui-ci, ramèrent avec leurs mains le long des rives. Là, dans une zone peu profonde, riche en lentilles d'eau et en nénuphars, ils découvrirent le repère des têtards. Il grouillait. Agnès avait pris un seau dans le garage et ils commencèrent à le remplir du produit de leur chasse. C'était vraiment intéressant. Certains étaient minuscules, d'autres gros comme des billes avec une toute petite queue. Quelques-uns n'avaient pas encore de pattes, d'autres en avaient deux, et un certain nombre ressemblaient déjà à des petites grenouilles. Toute cette faune tournait en rond dans le récipient à moitié empli d'une eau brunâtre. Très vite, ils adoptèrent chacun le leur. Le petit, choisi par Agnès, fut appelé Robert, comme le prêtre. Le gros, tout rond, Jean-François, comme le maître d'école d'Antoine. « Et celui-là, s'exclama Agnès, on dirait Madame Turin. » Et ils éclatèrent de rire. Les voilà ! Ils sursautèrent. Agnès lâcha le seau et eut juste le temps de voir Robert et Jean-François plonger dans leur élément premier. Là, sur la bordure opposée, surgirent leurs parents accompagnés de la tante Odette. « Mon Dieu, dans quel état êtes-vous ? » Antoine essaya de brosser les grosses taches noires de son short. Elles s'étalaient horriblement, les marques de ses doigts se dessinant sur la toile. « Et les vêpres ? On vous cherche partout. Monsieur le curé a retardé l'office pour vous. Mais alors qu'il est, il a dû renoncer à vous attendre. Qu'est-ce qu'on va penser de nous ?» La mère d'Antoine attrapa Agnès et lui flanqua une bonne fessée. « C'est toi la plus grande, tu es responsable. » Agnès entra en pleurant dans la voiture, suivie d'Antoine abasourdi. Sa sœur lui jeta un regard noir. « Chouchou » marmonna-t-elle. Antoine savait que plus tard, elle se vengerait. En lui versant un peu d'eau dans le cou en débarrassant la table ou en lui donnant un coup d'éponge sur la figure lorsqu'elle nettoierait la nappe. L'important, pour l'instant, était de comprendre ce qui se passait. « Dis, maman, c'est quoi les vêpres » osa-t-il. Ils arrivèrent à l'église alors que les gens commençaient à en sortir. Madame Bouchot jouait « Jésus, que ma joie demeure » en pédalant de toutes ses forces. D'une certaine façon, l'honneur était sauf, car leur mère avait rempli son devoir. Elle les traînait devant tout le monde en en tenant un dans chaque main. Soudain, alors qu'elle croisait Madame Turin, elle tira très fort sur le bras de son fils qui en fut déséquilibré, comme pour affirmer son autorité et sa désapprobation. Madame Turin, épouse du chef de bureau de leur père, passa très droite, lançant juste un court regard culpabilisant aux deux enfants. Agnès pleurnichait toujours. À contre-courant, le petit groupe rejoignit l'autel où le prêtre remettait un peu d'ordre en fredonnant en rythme avec l'harmonium. L'homme de Dieu regarda droit dans les yeux les deux pécheurs. « Samedi prochain, à confesse !» leur dit-il fermement.